Nous passons à la revue de presse nationale et internationale de Catherine Boulet. Bonjour Catherine.
Bonjour Noël.
En une de la presse en France comme à l'étranger, l'accord signé hier avec l'Iran.
Il est 12h11 hier quand Federica Mogherini prononce cette phrase. Nous avons l'accord. L'italienne chef de la diplomatie européenne résume de cette simple formule 12 années de discussion, 21 mois de négociations et 17 jours de tractations pour un texte de 109 pages et tout ça. Après 35 ans de guerre froide, c'est à lire dans La Croix et Le Parisien. Pourtant, raconte l'envoyé spécial du Monde à Vienne, où ont lieu les discussions, rarement une négociation aura été si longue et si compliquée. Les pourparlers devaient durer un an, elles auront duré le double de tension aussi. Dans la dernière ligne droite, exaspérée par les blocages, Mogherini s'est emportée. Si c'est comme ça, on va tous rentrer à la maison. Le chef de la diplomatie iranienne, Mohammad Javad Zarif, rétorque aussitôt, ne menace assez jamais un Iranien et Sergueï Lavrov de surenchérir, ni un Russe. Tension oubliée hier matin. L'Iran, paria international, c'est fini. Hassan Rouhani et Barack Obama figurent côte à côte en photo en une du International New York Times. Accord historique, a-t-on entendu dans les minutes qui ont suivi. Événement d'une dimension tectonique, c'est même hasardé à un expert de la question iranienne, rapporte Florence Courret ce matin dans La Croix. Précisément, poursuit-elle, comme nous l'enseigne la tectonique, le mouvement des plaques est tout à la fois imprévisible, erratique et périlleux, tout comme cet accord finalement auquel il manque l'essentiel, la confiance. C'est vrai, reprend le International New York Times, Obama savoure la grande réalisation diplomatique de sa présidence, mais il l'a dit sans embâge, cet accord n'est pas fondé sur la confiance, mais sur des vérifications. Maintenant, le Congrès américain a 60 jours pour voter l'accord, l'accepter, le rejeter ou bien ne rien faire. Le président Obama a déjà prévenu qu'il pourrait utiliser son droit de veto en cas de désaccord.
Parmi les sceptiques, Benjamin Netanyahou.
Oui, dès la signature, le premier ministre israélien a immédiatement condamné une erreur historique. Mais la presse israélienne est plus prudente ce matin. Malgré les superlatifs effrayants de Netanyahou écrit à Haaretz, l'accord avec la République islamique d'Iran, même déséquilibré, offre une chance à Israël et au Moyen-Orient. Titre en une, péril et promesse d'un accord avec l'Iran. Et le journal va même plus loin, détaillant l'évolution du champ lexical de Barack Obama. Deux mots-clés ont disparu du vocabulaire du président américain entre son discours d'avril et son discours du mois de juillet. Les vérifications, je cite, robuste et intrusive, c'était sa promesse, robuste et intrusive, deux mots dont il n'était plus question hier. Prudence et inquiétude également à la une du Jérusalem Post, beaucoup plus belliqueux. Si Israël veut frapper l'Iran, c'est maintenant ou jamais, parce qu'une fois que les Nations Unies auront levé les sanctions, il ne sera plus question de frappe préventive. En gros, Israël a jusqu'à décembre. Mais bon, une telle action serait évidemment impensable aujourd'hui, concède le journaliste. Finalement, résume Times of Israel, cet accord change la donne militaire pour le pays. Il va sans doute infléchir la menace immédiate, mais il va attiser les flammes régionales et pourrait isoler Jérusalem. En attendant, l'accord est salué par le monde entier, se félicite l'Iran News, tandis que l'Iran Daily regarde du côté du grand voisin turc, qui lui aussi n'y voit pour l'instant rien à redire. Et pour l'heure, à Téhéran, on s'apprête à augmenter les exportations de pétrole, expliquent les échos. Téhéran, à qui les entreprises françaises font les yeux doux. L'Iran, c'est quand même un marché de 80 millions d'habitants, même si certains dans la société en veulent un peu aux Français d'être partis quand les temps étaient durs. Total, qui n'avait jamais vraiment coupé les ponts, y est bien positionné. Danone, Airbus ou encore LVMH pourraient bientôt y prospérer grâce justement à l'accord d'hier.
Des lendemains difficiles en revanche pour Alexis Tsipras, alors que le Parlement grec doit examiner ce soir le texte de l'accord.
Un accord qui pourrait bien coûter 100 milliards d'euros à l'Europe, écrit le Figaro. 100 milliards sur 3 ans, estimation officieuse qui promet de belles empoignades chez les 18 et qui circule dans les couloirs à Bruxelles. Et puisque les Grecs coûtent si cher, alors pourquoi pas les échanger contre Porto Rico ? Porto Rico, c'est l'épine dans le pied des Américains, la Grèce des Caraïbes en quelque sorte, avec ses 72 milliards de dettes. En fait, la semaine dernière, raconte le Figaro Echo, les pages saumon, Wolfgang Schäuble, le ministre des Finances allemand, exaspéré par les conseils des États-Unis en matière de sauvetage grec, s'est exclamé « On prend Porto Rico dans la zone euro si les États-Unis acceptent la Grèce dans la zone dollar ». Résultat, 350 portoricains ont pris la proposition homo. Bon, ce n'est jamais que 350 signatures sur une pétition. Après le Grexit, le Brexit, voilà le Porto Ricoxit, conclut le journaliste du Figaro. Enfin bon, 100 milliards le prix de la Grèce dans l'euro. Ceci dit, c'est à peu près le coût de la pollution de l'air. Une facture stratosphérique, titre ce matin le Parisien aujourd'hui en France. Qui s'est procuré les conclusions d'une enquête du Sénat? Gabriel Pereira nous en parlait tout à l'heure. Jean-François Husson, sénateur Les Républicains, et Laila Hachi d'Europe Écologie Les Verts ont évalué le coût annuel de la pollution atmosphérique. Ça nous fait à peu près 1100 à 1600 euros par an et par habitant. 650 000 journées d'arrêt de travail, cancer, asthme, troubles cardiovasculaires, rien que les frais médicaux liés à la pollution s'élèveraient à 2 milliards d'euros chaque année selon l'INSERM. Dessin de rançon pour illustrer le propos de François Hollande. C'est François Hollande, le président, qui demande à Ségolène Royal. Et à part taxer le Nutella, tu as une idée pour payer les 100 milliards que nous coûte la pollution?
François Hollande, justement, qui fait la une du Figaro.
Ah oui, le Figaro qui tique. Hier, lors de l'intervention présidentielle rituelle du 14 juillet, le président s'est qualifié d'audacieux. S'est auto-qualifié d'audacieux. Mais il y a audace et audace, corrige ce matin Paul-Henri Dulimbert. Hollande, il est calculateur, sans doute, prudent, assurément, précautionneux, évidemment, mais audacieux. En vérité, il n'y a qu'un seul domaine dans lequel le chef de l'État, hélas, s'est montré faramineusement audacieux, c'est celui de la hausse d'impôts. Paul-Henri Dulimbert, qui tout à coup se met à féliciter, contrairement à ces dernières semaines, Alexis Tsipras, l'audacieux, dit Paul-Henri Dulimbert, c'est lui, audacieux de la part du Figaro.
Autre source d'incompréhension parfois, les mystères du Tour de France.
Christopher Froome fait la une de la plupart des journaux, le champion ce matin, mais c'est cette information relevée dans Le Monde qui retient l'attention. Les coureurs peuvent encore dormir tranquilles. Pas de test antidopage entre 23h et 6h du matin. C'est le Conseil d'État qui le dit en France, principe constitutionnel d'inviolabilité du domicile. Mais c'est bientôt fini. La France candidate au JO de 2024 a plutôt intérêt à se mettre en règle avec l'Agence mondiale anti-dopage. En attendant, joueurs de tennis ou footballeurs peuvent continuer, eux, à dormir tranquilles.
C'était la revue de presse nationale et internationale. Catherine Boulet, merci.